Bienvenue à vous et à vos oreilles frétillantes d'audace. Vous écoutez La Cohorte, le podcast qui rapproche les freelances. C'est Marine qui vous parle, l'entrepreneuse curieuse qui aime savoir comment vous débrouillez au quotidien. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que dans chaque épisode, je m'attaque à un sujet qui nous concerne tous, ou du moins un bon nombre d'entre nous. La plupart du temps, j'aborde cette question à travers des interviews de freelance qui ont trouvé des solutions malines et surtout reproductibles. Il m'arrive aussi de changer de format, car voyez-vous, j'aime bien vous surprendre. Mais rassurez-vous, l'objectif reste toujours le même. Vous donner des idées pour kiffer encore plus votre vie de freelance. Croyez-le ou non, aujourd'hui mon invité n'est pas freelance, mais son témoignage n'en est pas moins précieux. Alors ouvrez grand vos oreilles. Dans l'épisode précédent, on a vu avec Leïla comment gérer les clients qui demandent à ce qu'on travaille dans leur bureau, alors que la mission pourrait être réalisée à distance. Leïla est social media manager indépendante, et pour tout un tas de raisons, elle aime de moins en moins se déplacer pour travailler chez ses clients. Même si elle entretient de bonnes relations avec les agences pour qui elle bosse, elle ne comprend pas toujours pourquoi ces dernières tiennent tant à la voir dans leur bureau. Il me paraissait donc indispensable, pour prendre un peu de recul sur cette question, d'avoir le point de vue d'un client. C'est pourquoi j'ai sollicité Emmanuel. Emmanuel est directeur associé de l'agence Useful, attaché à la production. Il fait appel à des freelances pour la plupart des projets confiés à l'agence. Et très souvent, il leur demande de venir travailler à Bagnolet, dans les bureaux d'Useful. Vous voulez savoir pourquoi? Et tant qu'on y est, vous voulez aussi avoir le point de vue d'Emmanuel sur les relations freelance-agence? Réjouissez-vous, vous allez obtenir ses réponses dans l'interview qui suit, et bien plus encore.
Emmanuel, tu me disais que Useful, c'était une agence de réseau. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça signifie?
Ça signifie que, depuis 10 ans qu'on existe, depuis le début, on s'est présenté comme n'ayant pas en interne les ressources suffisantes pour mener à bien toutes les idées qu'on propose à nos clients, déjà. On se présente comme une agence ayant un réseau extensible à la demande en faisant un peu de recherche. De prestataires avec qui on a déjà bossé ou qu'on a déjà évalué et qui rassemblent pas mal de compétences hyper spécialisées qu'une agence de notre taille pourrait jamais prétendre développer toute seule, quoi. On est que 18 à date. On se présente comme ça de manière très transparente et on présente d'ailleurs souvent les partenaires avec qui on travaille régulièrement et quand on présente un projet, les partenaires avec qui on a bossé dessus, qu'ils soient studio ou freelance.
Qu'est-ce qu'un bon freelance selon toi ?
De notre expérience, ça se place d'abord avant son expertise métier. Typiquement, c'est d'abord sa manière de gérer son propre statut et sa relation à nous. Donc, c'est être carré dans les échanges au début et à la fin d'un projet, être clair sur ses impératifs, son planning, ses manières de faire, ses tarifs, ses conditions, être clair sur ce qu'il est capable de faire, il ou elle est capable de faire ou pas. C'est quelqu'un qui gère bien son temps, qui gère bien les projets qu'il a à côté et qui nous ensevelit pas sous des tas de renseignements sur ces mêmes projets qui nous intéressent que moyennement. Et vraiment, ouais, quelqu'un qui je pense, est d'abord mature dans son cycle de travail, dans les raisons pour lesquelles il fait ça, ce genre de choses. Et puis après, bien sûr, quelqu'un qui est très bon dans sa spécialité, qui est pédagogue, qui collabore bien, qui comprend vite les méthodes de collaboration et de travail aussi. Enfin, c'est beaucoup autour de la notion de collaboration. Je pense que sans ça, de toute façon, il n'y a aucune exploitation possible de ses compétences spécifiques métiers, tout aussi géniales qu'elles soient.
Est-ce que vous demandez fréquemment aux freelances de venir travailler dans vos locaux ?
Ouais, très fréquemment en fait. Accessoirement, c'est même une question plutôt quand on rencontre quelqu'un, pas forcément pour un job précis, voilà. Le réseau, ça se travaille aussi au quotidien, pas forcément en ayant un besoin précis. C'est une question qu'on pose toujours, c'est où est-ce que tu es localisé, dans quelle mesure tu pourrais venir bosser dans nos locaux ou même, pourquoi pas, nous accompagner chez le client si le besoin était, dans quelles conditions, à quelle fréquence, ce genre de choses. C'est assez important, ouais. Parce que pour certains projets, ça se révèle à nos yeux indispensable ou en tout cas beaucoup plus confortable et ça peut être un critère de choix du freelance avec qui on bosse.
Et pourquoi c'est important pour vous ? Tu me disais que tu croyais pas, en tout cas pas tout le temps, à la communication à distance.
Bah, ça vient avant tout de nous, je pense. C'est que des fois, nous, on se sent pas de faire les choses à distance. Par exemple, si on est sur un projet dont les contraintes bougent beaucoup, ou sur un projet qui est dans un temps extrêmement compressé, il va y avoir un décalage peut-être s'il y a une partie des équipes qui travaillent à distance et une partie qui est sur place. C'est vrai qu'aussi, nous, il y a plusieurs types de cas. Il y a le cas tout simplement où l'équipe est mixte entre de l'interne et de l'externe avec des frites. Donc là, clairement, il y a une question à se poser dans quelle mesure on peut effectuer certains travaux de concert en n'étant pas sur les mêmes plannings, dans les mêmes locaux, etc. Il y a aussi, pour revenir à l'histoire du freelance qui doit gérer ses propres impératifs, ben, ça nous assure aussi assez souvent un bon focus sur notre sujet quand on est sur un temps compressé. Et puis après, il y a la typologie de projet, où là, pour moi, il y a des types de projets où, historiquement, en tout cas, on a toujours de meilleurs résultats quand on est en présentiel. Par exemple, les appels d'offres, les compétitions. Malheureusement, le marché des agences, enfin la manière dont les agences sont briefées, fait que les délais sont souvent très courts et la somme de choses à produire est souvent assez importante dans ces délais-là. Et dans ce cas-là, c'est plus facile de gommer en fait les imprécisions, de pallier à par exemple des manques d'habitude de travail en commun, etc. Si on peut voir par exemple dans l'attitude de la personne que ce qu'on dit n'est pas clair. Qu'elle puisse nous voir quand elle a une question sans avoir l'impression de nous déranger ou sans attendre le prochain point projet, ce genre de choses, quoi. Donc c'est vrai que j'ai des collaborateurs qui vont se sentir beaucoup plus sécurisés quand je vais leur proposer des ressources qui peuvent venir sur place. Et puis tout le monde n'a pas l'habitude chez Useful de travailler avec des gens à distance. Il y a des gens qui viennent d'arriver chez nous, qui viennent des fois de parcours où ça se fait pas trop. Et donc ça aussi, c'est un point, il faut aussi s'adapter. Aux commanditaires internes.
Est-ce que tu dirais qu'il y a des types de métiers pour lesquels c'est encore plus important? Enfin, tu fais une distinction selon les métiers?
Moi, j'y ai pas trop réfléchi de la sorte. Après, c'est vrai que comme ça, à l'instinct, je te dirais qu'effectivement, les métiers qui sont plus liés au conseil, à la stratégie, à l'analyse en amont, et globalement à nos propositions au conseil, ça va être peut-être un peu plus fréquent d'avoir besoin de les avoir en présentiel, parce que typiquement, c'est des projets qui sont beaucoup liés à des réunions de conception en commun, à des réunions de réflexion en commun. Voilà, on va fouiller dans des éléments que les clients nous ont livrés pour trouver des insights, on va repasser un peu le travail du planning strat ensemble et discuter à bâton rompu en même temps que ça nous est présenté, de ce que ça nous inspire, ce genre de choses. Donc ça, c'est vrai que présentiel, certainement une bonne idée, à minima, ouais, d'avoir le sentiment d'être dans la même pièce. Si la visioconférence peut nous l'apporter, pourquoi pas. Mais voilà. En tout cas, on va devoir travailler de manière très synchrone. Donc ça, c'est un premier type de métier, je dirais. Et après, dans la production, on va dire plus des métiers type studio, créa, studio technique, ce genre de choses. Je vais aussi souvent constater que, en tout cas dans les premiers temps, par exemple, des phases créa, pareil, ça peut être intéressant que les gens se rencontrent. Je pense au kick-off, par exemple, projet, à la prise de brief. Je pense aux premiers échanges, par exemple, sur un premier visuel ou des premières intentions, où là, il va souvent avoir besoin de créer une émulsion. Et puis après, une fois qu'on voit après clairement où on va, c'est souvent plus facile ensuite que chacun retourne un peu dans son coin pour accomplir les tâches très claires qu'il a à accomplir, quoi. Et après, il y a un dernier aspect, c'est tout simplement les freelances qui font du management projet tout du long. Donc je pense à la gestion de projet, par exemple, où là, on fait des essais en ce moment de travailler avec des freelances et on voit qu'il y a un besoin de présentiel très très fort, mais là, qui est lié clairement aux contingences métiers de la gestion de projet. Pour qu'un freelance puisse faire de la gestion de projet chez nous, il faut évidemment que lui aussi, il réponde à son propre besoin de voir les gens en interne et de les briefer en direct. Donc voilà, ça, pour le coup, une gestion de projet entièrement à distance. Si toute l'équipe est éclatée à distance et qu'il n'y a pas de lieu de rassemblement, c'est sûrement beaucoup plus facile, mais être le seul à être à distance de l'agence, quand tu gères des gens qui sont dans l'agence, c'est très difficile, je pense.
Est-ce que tu as senti une évolution côté freelance sur ce sujet du travail en régie?
Très clairement. Alors après, est-ce que c'est une évolution du marché ou est-ce que c'est une évolution de ma perception ou une montée en expérience? Parce que bon, c'est vrai que ça fait 10 ans à minima que je travaille avec des free, sans compter ce que j'ai fait avant Useful. Je sens une évolution. Je sens que tout simplement, bah, il y a une migration négative de la région parisienne. Nous, on est en région parisienne, donc peut-être plus de gens qui font des projets d'être ailleurs. Je sens aussi que tout simplement notre réseau vieillit, donc c'est bête à dire, mais plus ça va, plus on a envie de bosser avec des seniors, et ce qui tombe bien, puisque notre réseau historique vieillit avec nous, donc ils se seniorisent. Et peut-être que ça accompagne aussi le rythme de vie de ces gens-là. J'ai 35 ans, j'ai fait des gosses, je ne me vois pas les élever à Paris, je vais bouger à Bordeaux. Donc il y a ça aussi. Et après, même quand on est dans la même ville, je sens aussi plus de gens qui se sont construits de manière... ils ont une idée très précise de ce que doit être leur quotidien hebdomadaire, et peut-être de ce qu'ils sont prêts à donner en termes de présentiel en agence, versus ce qu'ils ont prévu comme temps perso, temps d'organisation perso, versus leur organisation qui est peut-être basée beaucoup sur gérer leurs projets de manière fluide et séquencée dans la même journée. Et du coup, ils ne se sentent peut-être pas d'aller en agence parce qu'ils voient ça comme une perte de temps, les trajets, et ça correspond peut-être pas forcément à la manière dont ils ont planifié leur semaine, quoi. Moi, en tout cas, je le sens de manière de plus en plus dure, et entre guillemets dure dans le sens où c'est très affirmé chez les freelance, parfois.
Et est-ce que, de votre côté, vous avez évolué sur le sujet ? Est-ce que tu dirais que vous êtes plus flexible ?
Ouais, on est plus flexible. Alors, c'est vrai que nous, on est un cas... Enfin, les cas sont toujours particuliers, mais dans notre cas particulier, le travail à distance en lui-même s'est généralisé dans l'agence. C'est-à-dire que, dans l'évolution de l'agence, on voit d'un bon œil le télétravail, même quand il est important. D'ailleurs, ça nous a pas mal sauvés dernièrement avec la grève à Paris. On a eu des difficultés, mais je pense beaucoup moins que des sociétés où les gens n'ont pas les usages, les outils, les habitudes pour bosser à distance souvent. Bref, on a largement augmenté le ratio de télétravail et d'utilisation d'outils type visioconférence, ce genre de choses. Et du coup, probablement, on est plus ouvert aussi au travail à distance par les free ou autres prestataires. Nous-mêmes, on se sent plus à l'aise dans le fait de le faire, et on fait peut-être plus facilement confiance aussi. Et les autres en face, les autres parties prenantes, on voit bien aussi qu'ils ont leurs habitudes, ils envoient très naturellement eux-mêmes des liens de visioconférence, il y a une manière peut-être un peu plus carrée aussi d'aborder la collaboration à distance chez nos free, qui nous met plus en confiance.
Alors, parmi les freelances que j'ai interrogées, j'ai noté certains blocages, une certaine réticence, souvent en tout cas en ce qui concerne le travail en régie. Certains y voient une forme de flicage et d'autres redoutent qu'on leur demande plus que ce qui était convenu une fois qu'ils sont sur place. Est-ce que c'est des objections que tu as déjà entendues? Et puis, si c'est le cas, comment tu y réponds?
Les objections précises sur le flicage ou des abus une fois sur place, non, on ne les a jamais signifiées comme ça. Probablement parce que c'était pas entendable ou alors c'était peut-être pas la question. Après, j'ai quand même eu des réticences à venir bosser chez nous, ça y a pas de souci. Il y en a très souvent. Comment j'y réponds ? J'y réponds probablement en essayant de devancer les freins. S'ils m'ont pas été explicités, typiquement le fait de devoir gérer d'autres projets à côté ou le fait de devoir venir pour très peu de temps pour repartir et faire un trajet pour pas grand-chose, je propose souvent de se sentir libre de gérer ses propres impératifs chez nous. Je vais plutôt présenter les choses de la manière suivante, par exemple en disant si on a une réunion ensemble de 10h à midi, tu peux venir plus tôt si tu veux, tu peux rester avec nous, tu peux profiter de toute l'infrastructure, tu peux te faire des cafés, si tu veux prendre une salle de réu, te poser, et gérer tes autres projets dans la journée, si c'est plus facile pour toi, quoi, par exemple. Et je pense que ça désamorce pas mal la peur d'être fliqué, puisque je dis très clairement que je vais pas vraiment comprendre ce que tu fais dans ta journée, que je vais pas vraiment regarder, et que je vais te laisser gérer ça un peu comme tu veux. Et c'est le mot d'ordre que je donne en interne. Et puis même, je propose généralement, quand ça se passe bien lors d'une collab, aux free, s'ils veulent repasser, se poser régulièrement dans notre open space, parce que peut-être eux aussi ont besoin de voir des gens. Ou si des fois, ils trouvent pas une salle de réunion, ou autre pour leurs besoins, pour des projets qu'ils ont avec d'autres clients, on leur propose de profiter de ce qu'on a, quoi. On essaie en fait de leur donner le sentiment que ils font partie un peu de ce réseau en fait dont tu parlais au début. C'est un peu ça qu'on essaie de créer de manière pour l'instant informelle et j'espère peut-être plus construite plus tard.
Comment le travail des freelances donc présents dans vos locaux est-il cadré ? Est-ce que il y a une to-do qui est convenue à l'avance ou est-ce qu'il peut y avoir des demandes qui arrivent au fil de l'eau ? Est-ce qu'il y a un cadre précis ?
Oui, c'est cadré, c'est sûr, c'est essentiel pour nous. On est assez à cheval sur les livrables cadres justement, type les briefs par exemple. On va avoir une succession de différents documents de brief du projet macro pour le chef de projet jusqu'au brief entre guillemets de la ressource unitaire à la fin. Donc déjà des éléments de brief, il y en a beaucoup. On détaille les livrables, on détaille un planning pour permettre d'ailleurs en face d'avoir un chiffrage solide et qui va a priori être ce qu'on va payer à la fin de la part du free. Et puis on est assez à cheval sur les méthodes de gestion de projet en règle générale. On se repose beaucoup là-dessus, encore une fois, pour pouvoir par exemple bosser à distance et bosser avec des free. Donc du coup, oui, on annonce assez vite les to-do qui vont arriver et on les intègre dans nos outils qui sont tous dans le cloud en fait. Donc on va utiliser par exemple Basecamp pour la gestion de projet centralisée, on utilise beaucoup Drive, les documents Drive mais aussi le stockage Drive, Dropbox et autres outils dont les freelances sont familiers. Donc on essaie de les intégrer en fait comme une ressource à part entière le temps du projet et d'ailleurs, on leur transmet aussi des petits guides sur comment utiliser nos outils ou on sollicite des sessions de questions-réponses pour voir si c'est clair pour eux. Donc, je crois que les to-do, ils en ont. Limite, le frein parfois, c'est que s'ils n'ont pas l'habitude de cadre, parfois, ça les déstabilise dans l'autre sens. C'est plutôt ça, je pense, le phénomène auquel on a droit. Après, bien sûr, quand il y a des nouveaux collaborateurs ou quand il y a des situations compliquées, des projets compliqués, il peut arriver que ça se répercute sur le freelance, le fait que nous-mêmes, on doive intégrer des livrables au fil de l'eau ou qu'on ait des imprévus, ça, bien sûr. Mais ça va être limité, si on fait bien notre travail, c'est limité à des événements extérieurs à nous, quoi.
Est-ce que les freelances rendent des comptes à quelqu'un en particulier ? Il y a un interlocuteur privilégié ? Comment ça se passe en termes de, justement d'organisation ?
En préambule, souvent, le contact, ça va un moment passer par moi. Étant le référent, trafic, méthode de production, c'est ma charge de détecter ce qui me semble être des futurs collaborateurs de qualité, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Et donc, voilà, il y a une partie de la relation pour laquelle je suis le référent. Bien sûr, les free aussi, s'ils ont des problèmes au sein des projets, peuvent se tourner vers moi. Je suis un des deux fondateurs de l'agence. Et je me présente dès le début comme étant une sorte de garant de la bonne collaboration et des bonnes pratiques. Donc, je les invite toujours à se tourner vers moi. Donc, voilà, je peux être, je pense, un interlocuteur privilégié pour eux. Et après, il y a qui dit projet, dit chef de projet. Donc, il y a un chef de projet chez nous, quel que soit son métier d'origine, parce qu'il peut très bien venir, par exemple, des expertises social media, comme de la production web, par exemple. Il a pour consigne de entre guillemets, de prendre soin de ses ressources, de prendre soin de ses free, quoi. Donc, aussi de les interroger, de se présenter comme un interlocuteur référent, de les aider à gérer leurs problèmes autres s'ils en ont, trouver des solutions avec eux, etc. Donc, je pense que c'est avant tout lui l'interlocuteur référent dans un cas de projet, quoi, le chef de projet.
Et est-ce que vous travaillez de façon différente avec vos salariés ?
Au regard de tes questions, on pourrait dire qu'on travaille justement peut-être parfois avec peut-être pas moins de rigueur, mais moins de cadre, justement. Dans le sens où le salarié, il est là au jour le jour, donc peut-être qu'il peut se prêter à des coups de main, peut-être qu'il peut parfois accepter des briefs qui sont un peu plus flous, peut-être qu'on va plus pouvoir, on va plus avoir tendance à s'appuyer sur ses acquis, sur ses habitudes en fait. Donc on va être peut-être plus inductif par exemple, on va plus induire par exemple le niveau de qualité qu'on met derrière un livrable plutôt que lui montrer 15 exemples pour qu'il voit ce qu'on a l'habitude de livrer par exemple. Donc ouais, il y a ça d'abord. Et puis le salarié, il est sur plusieurs projets en même temps. Donc le salarié, il a cette question du conflit d'intérêts qui pour le coup est ouvert. Autant le freelance, on considère que s'il a accepté la mission, les conflits d'intérêts, il les a résolus ou en tout cas il les gère sur ses autres missions. Par contre, le salarié, lui, les conflits d'intérêts, il en a à chaque fois que un même commanditaire lui demande deux choses pour deux projets différents la même semaine et que ça rentre pas, par exemple. Donc il va falloir l'interroger, vérifier que c'est clair pour lui, vérifier que typiquement un cadre plus souple ça lui convient, ou est-ce qu'il a besoin de plus de formalisme. Enfin, voilà, essayer d'éviter de tomber dans des travers liés justement aux habitudes, au fait que la dernière fois il avait bien fait, donc il n'y a pas de raison qu'il fasse mal cette fois-ci. C'est plus lié à la connaissance de l'autre et moins lié à une méthode qui est à peu près tout le temps la même avec des attendus, donc on considère que c'est des classiques pour un professionnel indépendant, quoi.
Tu me disais aussi que le salarié, enfin vos salariés en tout cas, tu avais le sentiment d'avoir besoin d'un peu plus les monitorer.
Oui, parce que ils ont comme consigne par exemple parfois de bien faire, et ce qui fait qu'ils peuvent parfois exploser leur temps. Et autant, je pense qu'un free, s'il explose ses temps, si est mal pris, il va pas forcément te le facturer, ou en tout cas, il applique des méthodes qui évitent ce genre d'erreur aussi. Enfin, j'ai moins le sentiment, en tout cas, d'être soumis aux errances d'un freelance, qui d'ailleurs, chez nous, les freelances sont souvent seniors. Donc voilà, alors qu'un salarié, on va plus souvent le mettre sur des tâches qu'il maîtrise un peu moins, il arrive moins avec une revendication d'expertise. Parfois, c'est plus nous qui avons besoin de le faire monter en compétences. Et puis, il va avoir envie de bien faire, donc il va tester des choses, il va errer, il va se laisser plus de temps. Et c'est bête à dire, mais nous, notre rentabilité, elle est basée souvent sur respecter les temps associés au projet. Donc, on va le monitorer, on va pondérer avec lui justement ce besoin de monter en compétences, ce besoin d'essayer, ce besoin de se tromper. C'est souvent des intentions qu'on va valider ensemble, par exemple le fait que là on va tester un truc pour voir. Et puis ils sont soumis à des interruptions du collectif tout le temps, vu qu'ils sont avec nous. Donc, encore une fois, tu peux très bien donner un objectif à quelqu'un en début de journée, et puis en milieu de journée, quelqu'un d'autre vient lui en donner un autre, et puis bah voilà, donc tu vas surveiller un petit peu tes équipes, quoi, quand t'es chef de projet.
Tu m'avais dit que tu avais été freelance.
Ouais, j'étais un super mauvais freelance, moi. J'étais extrêmement nul. Je pense que ouais, mes critères de sélection, c'est plutôt ce que j'ai vu chez les freelances que j'admirais, et en même temps ce que j'ai vu de très mal dans ma façon de faire à moi.
Qu'est-ce qui te fait dire que tu étais mauvais?
Ben, typiquement, j'arrivais pas à pondérer ma volonté de bien faire versus ce que j'avais vendu. J'arrivais pas bien à planifier mes semaines, à m'organiser tout seul. Ouais, je suis vachement admiratif de ceux qui arrivent à s'organiser tout seul, et voire même qui voient ça comme quelque chose qui les rend heureux. Mais, ouais, moi, j'étais pas du tout capable de faire ça. J'étais assez mauvais pour signifier aussi où étaient mes manques, quoi. Qu'est-ce qui faisait que je comprenais pas, ce genre de choses. Donc, j'étais certainement pas mauvais techniquement dans la proposition que je faisais. Et puis, j'étais développeur, donc c'est bête à dire, mais souvent, c'est assez bien spécifié ce qu'on demande à un développeur. Mais quand même, je le visais pas comme un bonheur, moi. J'avais toujours le sentiment d'être dans l'urgence, de pas avoir assez bien fait, de pas avoir un pipe assez bien rempli. Et puis, accessoirement, j'ai jamais réussi à m'en dégager une vraie stabilité financière telle que moi, je le voulais, quoi.
Et voilà, c'est terminé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé cela hyper enrichissant d'avoir la perspective d'un client. À tel point que je me dis qu'il faudrait que j'ose interroger les miens de clients sur leur perception de notre relation. Parmi tous les sujets importants qu'on a abordés avec Emmanuel, il y a deux choses qui m'ont particulièrement marquée. Premier point, nos clients souhaitent tout autant que nous établir une relation chaleureuse et durable. Chez Useful, c'est même un enjeu business. Pour se développer, l'agence s'appuie beaucoup sur ce qu'Emmanuel appelle des ressources externes, à savoir nous, les freelances. Il est donc vital pour Useful que tout se passe bien entre eux et nous. Bon, je ne suis pas sûre que toutes les entreprises valorisent autant notre rôle dans leur réussite, mais j'ai l'impression qu'on progresse. Deuxième point tout aussi instructif, pour rassurer et fidéliser nos clients, il faut leur expliquer régulièrement comment on travaille et où on en est. Pour Emmanuel, et j'imagine qu'il n'est pas le seul, cette capacité à bien communiquer est plus importante que l'expertise métier. C'est d'ailleurs parce qu'il trouve que la communication à distance n'est pas toujours fluide qu'il préfère faire venir les freelances dans les locaux de son agence. Et vous dans tout ça? Est-ce que vos clients aiment vous avoir sous leurs yeux? Est-ce que vous leur avez déjà demandé pourquoi? Et plus largement, est-ce que vous les avez déjà interrogés sur ce qu'ils pensent de votre travail et de votre relation? Racontez-moi tout sur le compte Instagram de la cohorte, sur son fil Twitter, sur sa page Facebook ou par mail à hello@lacohorte.fr. Avant de raccrocher, pensez à noter ou laisser un avis sur le podcast dans l'application qui vous sert à l'écouter, en particulier s'il s'agit d'Apple Podcast. Cela me fait toujours plaisir et puis en plus, cela aide d'autres freelances à découvrir la cohorte. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures, et d'ici là, surtout, restez libres.